Merci Pierre-Noël. Je rappelle que vous trouverez les fichiers des présentations, hein, comme le disait Bernard, vous les trouverez sur les sites des journées de l'économie, donc vous pourrez retrouver les chiffres, les informations, les propositions et les conclusions des uns et des autres. Donc vous voyez bien qu'à partir d'une analyse qui est finalement assez proche de celle de Pascal Lamy, hein, avec, puisque sur la haute valeur ajoutée et puis la moins haute valeur ajoutée, on arrive à des conclusions qui sont déjà assez différentes, puisque vous parlez de ces négociations, notamment avec la Chine et l'Inde. Nous allons continuer le débat avec Roger Guenry, donc professeur au Collège de France. Vous avez l'habitude de la perspective longue, vous avez écrit un petit livre il y a déjà un certain temps, très grand public, sur le marché, que je recommande à chacun de vous, ce qui est absolument remarquable. Donc, comment est-ce que vous voyez-vous cette question de la mondialisation à domestiquer ou non ? Vous avez un micro. Là.
Merci. Donc, il y a 489 ans, le 9 novembre 1522, Fernand de Magellan se trouvait à peu près à la moitié du détroit qui porte son nom. Un des quatre navires qui l'accompagnait, qui s'appelait le San Antonio, venait de rebrousser chemin après s'être rebellé. Sur les trois navires restants, l'équipage était inquiet. Les officiers se voulaient rassurants, tout allait bien, les bateaux étaient en bon état, les vivres suffisants. Et leur optimisme s'est trouvé justifié lorsque, 15 jours plus tard, le 27 novembre, l'escadre aborda un océan dont le calme inattendu lui valut le nom de Pacifique. Aujourd'hui, la mondialisation économique que nous vivons et qui met en contact ce que j'appellerais métaphoriquement les économies du Nord et les économies du Sud soulève des inquiétudes. Au Nord en particulier, où un mot nouveau, la démondialisation, l'exprime. Pour reprendre la comparaison nautique, la première tempête est venue de là où on ne l'attendait pas, c'est-à-dire de l'implosion du système financier. Le laisser-faire financier, qui était vanté par une minorité influente d'économistes, toléré par la majorité des autres et combattu par une minorité, vient de montrer ses limites. Qu'en est-il du laisser-faire économique, dont la logique conduit à créer un marché mondial, cette fois non pas pour les actifs financiers, mais pour les biens et services, et marché qui s'organise autour du démantèlement progressif des protections douanières, qui est dans le mandat de l'OMC. Alors, comme du temps de Magellan, l'équipage est inquiet et les officiers rassurants. Certes, la grande voile vient de s'effondrer, mais elle va être réparée et le bateau est solide. La mondialisation est non seulement domesticable, mais pour reprendre le titre de la session, elle est domestiquée. Alors, ce que je voudrais faire, moi, c'est qu'est-ce qu'on dit la théorie économique ? Pourquoi j'évoque la théorie économique ? Parce que c'est ma raison sociale. Et parce que la théorie économique est souvent présentée comme fournissant une justification sans tabou du libre-échange qui oriente nos décisions en matière de commerce. Et je voudrais montrer que c'est à tort, du moins jusqu'à un certain point. Et je vais essayer de le montrer en croisant les leçons de l'analyse économique assez standard, avec des échappées brèves sur l'histoire économique et l'analyse politique. Et je vais répondre pour ça deux grandes questions. Première question, c'est celle des mécanismes. Quelles sont les forces à l'œuvre lorsque les frontières du marché s'élargissent, par exemple qu'on passe d'un marché national à un marché international, à un marché mondial? Alors la théorie standard, celle qu'on enseigne dans les premières années d'université un peu partout dans le monde, repose sur les leçons tirées de la mondialisation du 19e siècle, qui a eu lieu entre 1846 et le début du 20e siècle, disons 1910. Et ces leçons qui ont été tirées vers 1930 par deux économistes suédois, Ekscher et Ohlin. Alors, Ekscher et Ohlin distinguent d'une part ce qui est les apparences. Les apparences, c'est qu'il y a une mobilité internationale des biens qui accompagne l'extension du commerce. Et naturellement, cette mobilité internationale implique l'égalisation de leurs prix sur tout le territoire où a lieu le commerce. Mais derrière les apparences, ce qui s'échange réellement, ce sont les facteurs qui permettent la production. Au 19e, la terre, le travail, le capital physique, qui eux ne sont pas ou sont peu mobiles. Et si j'essaie un petit peu de dire en quelques mots ce que disait Ohlin, en reprenant une de ses formules, ce qui s'échange, ce n'est pas le textile anglais contre le blé australien, c'est le travail anglais contre la terre australienne. Et donc, l'extension de l'échange, de l'espace des échanges, va donc par définition égaliser le prix des liens, ça c'est par définition, mais aussi tendre à égaliser les prix des facteurs, puisque quoi qu'ils mobilent, ils sont indirectement échangés. Alors, pour qui douterait de la réalité de ce phénomène, je peux rappeler que la rente foncière, mesurée, c'est ça, c'est de façon compliquée en termes réels, a été multipliée par 5 entre 1850 et 1910 en Australie, alors que dans la même période, elle a été divisée par 2 en Angleterre. Si vous revenez à votre mondialisation, nos salaires seront-ils fixés à Pékin, allez-vous me dire? Alors c'est le titre d'un article provocateur d'un professeur de Harvard, et j'aime bien le professeur et l'article. Non, ce n'est pas ce que dit la logique Escheroline. Le commerce produit certes une tendance à l'égalisation, mais cette tendance est bloquée au-delà d'un certain point. C'est-à-dire qu'il va conduire à la spécialisation. Analyse qui est rapportée à notre mondialisation nous rassure. Hein. Au nord, c'est-à-dire nous, l'Occident développé, les productions intensives en progrès technique. Au sud, sous-entendu aux émergents, les industries gourmandes en main-d'œuvre, non qualifiées. Conclusion qui mériterait évidemment pas mal de débats, mais que je ne fais seulement d'évoquer. Ma deuxième question, c'est l'extension de l'espace de l'échange est-il un processus gagnant-gagnant? Là, Ricardo nous dit oui, hein, c'est l'avantage comparé, mais les réponses de l'analyse économique sont en fait beaucoup plus nuancées, hein, pour ne pas dire plus. Par exemple, au niveau d'un pays, la théorie la plus standard, qui est associée par exemple au nom de Stolper et Samuelson, qui n'est pas spécialement sulfureux, nous dit que le commerce fait des gagnants et des perdants. Elle suggère par exemple, dans le cadre de notre mondialisation, point que je ne vais pas développer non plus, que les perdants au nord, dans le commerce nord-sud, seront les travailleurs non qualifiés. Donc, le processus globalement gagnant, mais fait des gagnants et des perdants. Donc la petite musique rose de la vulgate libérale s'accompagne malgré tout de pas mal de touches de gris. Alors je vais rajouter un peu de rose et un peu de gris. Un peu de rose, le maintien d'un certain rythme de progrès technique général fait que les perdants ne sont pas nécessairement des perdants absolus, mais des perdants relatifs. Allant plus loin, il se pourrait que l'extension du commerce stimule le progrès technique et fasse de gros perdants relatifs, entre guillemets, des petits gagnants absolus. Je rajoute du gris maintenant, ou des bémols. L'analyse traditionnelle des gains à l'échange repose sur une vision optimiste du fonctionnement du marché, et l'extension de l'espace du marché peut compromettre l'émergence d'une vision autoréalisatrice d'un avenir partagé. C'est ce qui s'est passé avec la crise. Deuxième bémol, la possibilité de compensation des gagnants et des perdants n'est avérée, dans le cadre de la théorie, hein, que si elle se place au niveau de l'espace de l'échange tout entier, et non au niveau de l'espace d'un des pays participants. Autrement dit, il n'est aucunement exclu que pour pouvoir compenser des perdants en France, il faille solliciter des gagnants en Chine. Vaste programme. À quoi il faut ajouter que les mécanismes que l'on met en œuvre, mécanismes de redistribution auxquels fait appel la théorie que je mentionne, sont beaucoup plus efficaces que les mécanismes réels qui reposent sur les systèmes fiscaux réels. Donc voilà l'analyse qui nous met loin de la mondialisation cauchemar, mais n'est pas non plus très proche du rouge de la mondialisation heureuse. Alors que dit l'histoire, hein ? Maints épisodes illustrent les vertus du commerce et sa contribution à l'essor de la prospérité. C'est-à-dire, dans les termes intérieurs, le fait qu'il ait été un processus globalement gagnant. Maints autres épisodes illustrent qu'il fait des gagnants et des perdants, et que les perdants se rebiffent, particulièrement s'ils sont majoritaires et vivent dans un système démocratique. C'est ce qui est passé vers 1880 en Allemagne, hein, où s'est formée une coalition favorable aux protectionnistes qui est devenue majoritaire parce qu'il y a eu changement de la perception. Comment va évoluer la mondialisation en cours? Je voudrais essayer de terminer un petit peu par là. Ma remarque, est-ce qu'il va se passer, dépend des idées qui, comme dit la sagesse populaire, gouvernent le monde et qui, alors cette fois nous le dit Pareto, grand sociologue, transite par les élites. Les élites du Sud, il faut bien le comprendre, ont répudié l'anticapitalisme qu'elles avaient paru adopter au moment de l'émancipation coloniale. Elles soutiennent, même si c'est de façon variable, la mondialisation en cours. Les élites du Nord font partie du camp des gagnants, mais, contrairement à ce qui s'est passé au 19e siècle, n'en gardent pas moins bonne conscience. Et leur bonne conscience s'alimente à 3 facteurs. Premièrement, que l'accroissement des inégalités au Nord est plus que compensé par la réduction des inégalités au niveau mondial. Ce point a été fait tout à l'heure. Deuxièmement, que les perdants au Nord sont peu nombreux. Troisièmement, qu'il n'y a pas d'alternative. L'évolution du processus dépendra largement de l'évolution des dimensions que je viens d'évoquer. Je vais revenir sur deux. Au Nord, les gagnants resteront-ils plus nombreux que les perdants, absolus ou relatifs, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant? Le clivage politique que fait naître la mondialisation, et qui est quelque peu orthogonal au clivage gauche-droite traditionnel, hein, va-t-il s'accentuer et jusqu'où? Deuxièmement, la réflexion économique va-t-elle permettre de penser la mondialisation de façon améliorée c'est-à-dire qu'au lieu de... comme ça a été le cas en matière financière, va-t-elle continuer à produire un savoir raffiné et croissant, mais tellement balkanisé qu'il n'aide pas la décision? Sous l'hypothèse optimiste, on verra apparaître un débat fructueux sur les protections mutuellement avantageuses pour le Nord et le Sud. Vaste défi. Réminiscent de celui auquel faisait face Magellan en entrant dans le Pacifique. Je dis, l'équipage était inquiet, mais les officiers et les capitaines étaient sans doute moins rassurés qu'ils ne le disent. Reste un petit doute, en effet, que j'évoque simplement, pas pour faire du catastrophique, mais pour simplement expliquer les inquiétudes qui sont liées à la mondialisation. Après tout, si le bateau, après avoir doublé le Cap des Vierges, s'était égaré au sud, et s'il était non dans le détroit de Magellan, mais sur la route autrement dangereuse qui mène au Cap Horn.
Merci, professeur. Vous n'avez pas remarqué que Pascal Lamy avait mis aujourd'hui sa tenue d'officier. Mais je vais donner tout de suite... De marine, précise-t-il. Je vais donner tout de suite la parole donc à François Bourguignon qui, je dois le préciser, a monté toute cette session. François, comment toi tu vois cette ouverture, ces avantages et ces faiblesses que nous a déjà exposé avec beaucoup de finesse Roger Guenry?
Oui, merci beaucoup. Beaucoup de choses ont été dites et le problème de parler en dernier dans ce genre de séance, c'est que on n'a pas grand-chose à ajouter. Peut-être un certain nombre de notes de bas de page. C'est ce que je vais essayer de faire en donnant à certains points qui ont déjà été abordés un éclairage un peu différent. Alors, d'une part, les avantages, les importations moins chères, de nouveaux débouchés d'exportation, une nouvelle structure des chaînes de valeur. De l'autre côté, les coûts, la restructuration, les problèmes d'emploi liés à la restructuration, les problèmes d'inégalité croissante. Mais je voudrais, dans les quelques remarques que je voudrais faire, m'intéresser plutôt, d'une part, au cadre mondial de la mondialisation, plutôt qu'un cadre national, et d'autre part, m'intéresser plus aux économies en développement, les émergents et les économies plus pauvres, que les économies développées. Je pense qu'il est utile, dans un premier temps, de regarder le processus de mondialisation dans une perspective qui est authentiquement mondiale, plutôt que la juxtaposition d'économies nationales, parce que ça permet de comprendre la logique et ça permet éventuellement de comprendre la direction dans laquelle l'ensemble du processus est en train d'aller. La composante essentielle de ce processus de mondialisation que nous connaissons aujourd'hui, c'est... dans une large mesure, l'ouverture d'une partie du monde qui était fermée aux échanges avec les économies de marché occidentales, notamment dans la région asiatique. Il s'agit de la Chine, il s'agit dans un deuxième temps aussi de l'Inde, qui était un pays qui était remarquablement fermé. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que l'ouverture de ces économies aux échanges internationaux, c'est équivalent à introduire dans l'économie ou dans les économies marchandes occidentales, un nombre supplémentaire de travailleurs, souvent non qualifiés, absolument considérable. Quelque chose de l'ordre de plus du milliard de travailleurs. Donc, la mondialisation, c'est un choc sur l'économie mondiale, dans la mesure où, soudainement, on a un afflux, un excédent de travailleurs. Dans le modèle classique marxien, du développement correspondant au XIXe siècle. C'est un phénomène qu'on connaît. Vous connaissez tous le concept d'armée de réserve et le fait que dans une économie dans laquelle il y a effectivement une réserve de main-d'œuvre à un niveau de subsistance que l'on peut élever à un niveau supérieur de salaire à travers une productivité plus forte dans le secteur moderne de l'économie, l'accumulation, la croissance a lieu simplement par pompage sur cette armée de réserve. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que les Chinois, les Indiens, les Indonésiens, les Vietnamiens ne se déplacent pas de leur région natale pour venir dans les économies développées. Ce sont les biens qui se déplacent. Et à travers ces biens, c'est le travail de ces gens-là qui se déplace. C'est le monde dans lequel nous vivons. C'est la raison pour laquelle la croissance a été plus rapide. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a assisté à une modification de la répartition des revenus dans le monde considérable. Qui gagne dans ce processus ? Évidemment, les travailleurs qui passent d'un niveau de subsistance à un niveau de productivité relativement raisonnable sont des gagnants. Ici, c'est évidemment les pays émergents qui, à travers le commerce, ont pu se développer de façon accélérée. Et d'autre part, ce sont les entrepreneurs, ce sont les détenteurs du capital dans les économies développées, aussi bien que dans les économies en développement, fournissant à travers le commerce international cette main-d'œuvre, qui profitent du processus. Les perdants dans ce processus, et c'est un peu ce dont Roger Guenry vient de parler, c'est effectivement les travailleurs, surtout non qualifiés, dans les économies développées, qui soudainement voient la progression de leur pouvoir d'achat, de leur niveau de vie, stoppé par la concurrence ou stoppé par l'arrivée sur le marché mondial de cette nouvelle main-d'œuvre. Ça, c'est la réalité du monde aujourd'hui. Et je crois qu'à partir de là, on comprend ce qui se passe dans l'évolution de la répartition des revenus dans le monde et on comprend ce qui se passe dans l'évolution de la répartition à l'intérieur des économies développées, augmentation des inégalités et augmentation des inégalités également dans un certain nombre d'économies émergentes, et en particulier la Chine, mais aussi l'Inde, pour ne pas parler d'autres économies. Le gain pour ces économies émergentes est absolument considérable. Un simple chiffre. S'agissant de la Chine, en pouvoir d'achat constant de 2005 et en dollars, le revenu moyen par tête en Chine est passé d'environ 1000 dollars en 1990. C'est donc 10 ans après la réforme chinoise, au moment où l'expansion de la Chine sur les marchés mondiaux commence à se produire, à aujourd'hui 6500 dollars. En 20 ans, on a cette multiplication par pratiquement 6 du revenu national par tête chinois, l'effet absolument considérable. Et ceci grâce à cette insertion très particulière. Ça n'a pas été en Chine une libéralisation complète du commerce. Ça a été un accent mis, comme dans les dragons asiatiques 20 ans plus tôt, ça a été un accent mis sur les exportations et puis une libéralisation très progressive qui est encore loin d'être faite des importations. Ce modèle se développe dans d'autres pays. Donc voilà la phase de la mondialisation dans laquelle on est, mais comme on l'a déjà signalé, est peut-être déjà en train d'arriver à maturité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe que les salaires en Chine croissent de façon accélérée. Il se passe que la main-d'œuvre en Chine devient rare. D'une part, on a le vieillissement de la population, on a la législation de l'enfant unique. On a encore énormément de monde dans le secteur rural chinois, mais la population qui y est n'est pas nécessairement la main-d'œuvre dont l'industrie a besoin sur les zones côtières pour continuer à se développer. Donc, on est probablement à l'heure actuelle en Chine en train d'approcher un point de retournement où la stratégie chinoise va se modifier, va probablement être beaucoup plus orientée vers le marché intérieur, dans lequel on aura toujours un processus de croissance rapide parce que la capacité d'absorption du marché intérieur est considérable, mais la présence chinoise sur les marchés internationaux va probablement diminuer, en tout cas en termes de taux de croissance par rapport à ce qu'on a observé aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe pour le reste du monde en développement ? Il faut bien voir qu'on a bien distingué aujourd'hui les économies émergentes, qui sont celles qui ont une croissance rapide, qui sont déjà des pays à revenus moyens, des pays plus pauvres, notamment des pays qui sont basés en Afrique, dont la croissance est beaucoup moins rapide, même si elle s'est accélérée grâce en partie à l'accélération de la croissance des pays émergents et à la croissance de l'économie mondiale ces dernières années. Aujourd'hui, le problème est de savoir ce qui va se passer avec ces pays-là. Mais si vous suivez le modèle mondial de développement avec armée de réserve, de main-d'œuvre, ce qu'on peut attendre, c'est que la réserve de main-d'œuvre passe de l'Asie assez rapidement à l'Afrique, tout au moins si l'Afrique est capable d'avoir le niveau de compétitivité qui lui permettra effectivement de pénétrer les marchés mondiaux, comme on l'a déjà dit, pas nécessairement les marchés des pays développés, mais certainement les marchés des pays émergents, ou de rentrer en concurrence avec les pays émergents sur la production de biens intensifs dans main-d'œuvre non qualifiée. Ça, il faut le permettre si on veut éviter que cette partie du monde reste à la traîne de l'autre partie du monde. On a les pays riches, on a les pays émergents qui sont en train de rattraper les pays riches. Il faut absolument que les pays les plus pauvres ne perdent pas de terrain par rapport à ce groupe intermédiaire. Et de ce point de vue-là, une politique est nécessaire, internationale, de la part des pays développés, de la part des pays émergents, pour ouvrir des marchés qui aujourd'hui ne le sont que très peu aux économies africaines, pour leur permettre de diversifier leur production par rapport à la production de matières premières qui est responsable à l'heure actuelle du gros de leur croissance. Et de ce point de vue-là, il y a un chantier, il y a un programme qui est extraordinairement important. Je vais terminer simplement en deux mots sur l'évolution de la répartition des revenus dans le monde. Nous vivons dans un monde qui est profondément inégalitaire. Certainement beaucoup plus inégalitaire que n'importe quel pays inégalitaire dans le monde, que ce soit l'Afrique du Sud ou que ce soit le Brésil. L'émergence des pays asiatiques et d'autres pays dans le monde, notamment certains pays latino-américains, modifie de façon très importante cet état de fait. L'inégalité a diminué et quelque part la mondialisation, c'est aussi ça. C'est aussi l'égalisation des niveaux de vie entre un certain nombre de pays. Mais il faut faire attention à ce que le dernier groupe, les pays les plus pauvres aujourd'hui, ne reste pas à la traîne. De ce point de vue-là, il y a une mission, il y a une tâche pour la communauté mondiale. Et de nouveau, c'est aussi ça la mondialisation, de faire apparaître cette communauté mondiale, d'être sûr que les plus pauvres bénéficieront également de la croissance permise par la mondialisation. Merci.
Voilà, vous avez entendu 5 propos avec un certain nombre de convergences, mais aussi des divergences, des choses, des points roses, des points moins clairs, plus sombres. Et maintenant, la parole est à vous. Donc.
Jean-Claude Monnier, je dirige des entreprises industrielles. Donc, juste une remarque et puis ma question après. Une remarque, je pense que dans les thèmes, l'entreprise et l'industrie sont très peu présentes sur les thèmes des deux jours. Ma question directe sur la mondialisation, vous n'avez pas abordé un sujet qui me paraît important, c'est l'énergie et les matières premières. Parce que je pense que c'est là où on va rencontrer un sérieux problème dans les années qui vont venir. Accessoirement aussi le problème des capitaux, vous n'en avez pas parlé. Il y a quand même qui est maître des capitaux aujourd'hui? Est-ce que c'est de nouveau la Chine et non pas les États-Unis, etc.
Merci, on va prendre la deuxième question.
Oui, il nous a été beaucoup présenté.
Merci de vous présenter.
Excusez-moi, Julien, étudiant à l'IEP de Paris. Il nous a beaucoup été présenté en fait les avantages et les moyens de vivre avec cette mondialisation, de tenir dans la compétition, l'éducation. D'ailleurs, pourquoi compétition et pas coopération? Et en fait, M. Guénery a touché du doigt un sujet moi qui me tient à cœur, à savoir la démocratie, l'histoire de gagnant-perdant. Et donc à la question qui était peut-on domestiquer la mondialisation, qui domestique qui? Quand aujourd'hui on voit que l'Italie doit changer de gouvernement sous la pression des marchés, quand on voit qu'hier c'était la Grèce qui doit changer de gouvernement et aussi de politique, moi la question que j'ai c'est est-ce que pour domestiquer la mondialisation il faut adopter un régime autoritaire ou alors, et c'est l'option que présentent certains, il faut aller vers la démondialisation pour sauvegarder notre démocratie. Ni la première ni la deuxième solution ne me conviennent. Maintenant donc, quels sont les éléments pour faire effectivement que la démocratie domestique la mondialisation? Merci.
Merci. Il y avait une troisième question.
Oui, merci. Merci au GIECO, donc, parce que c'est très intéressant. Merci à votre rapport. Sur les questions...
Merci de vous présenter.
Oui, Roland Jacquet, je suis élu au Grand Lyon.
Et puis d'être bref.
Merci. Et j'essaye d'être bref. Je suis d'accord sur les questions de la réorientation, de la mondialisation, j'appellerais plutôt réorientation, reconstruction, de la place de l'éducation. Mais l'agenda de Lisbonne nous avait déjà fait des promesses. Or, pas tenues. Pas tenues parce que contraire à, par exemple, l'exigence du BNPA, bénéfice net par action, dont les grands groupes se réfèrent uniquement. Si je prends Sanofi, par exemple, qui se désengage de sa recherche, le seul critère d'efficacité, c'est le BNPA. C'est pas l'éducation, c'est pas la formation, c'est pas la recherche, c'est pas le développement humain. Éducation, mais avec l'état des dettes et les exigences des marchés financiers et des agences de notation, le AAA. Mais comment financer l'éducation de masse pour tous et de haut niveau? Il y a, ne croyez-vous pas, une contradiction antinomique entre réorienter et répondre aux attentes, la mondialisation et l'Europe, et le système économique lui-même. Ne faut-il pas, dans une pensée marxienne moderne, dépasser ce système et privilégier échange des savoirs et savoir-faire, mise en commun, partage, nouvelle construction pour le développement humain, pour l'émancipation humaine?
Merci. Merci de votre question. Nous avons donc trois questions avec un thème tout de même qui sous-jacent, qui est le rôle de la finance, donc énergie, démocratie et domestication, éducation versus exigence des marchés. Sur l'énergie, on va s'adresser à l'homme des mines.
Merci. Bon, alors, je vais être très bref, évidemment. Les problèmes de tension sur les matières premières et l'énergie que suscite la croissance extrêmement rapide des pays émergents sont des problèmes de délai pour investir, pour développer de nouvelles capacités. Dans certains cas, ça s'accompagnera d'une hausse relative du prix de ces matières premières, en particulier énergétiques. Mais en fait, le seul qui sera susceptible d'augmenter son prix en valeur réelle, ce sera le pétrole, parce que il va falloir, et d'ailleurs les Chinois le font, fabriquer des carburants de substitution à partir du charbon, puisqu'on va atteindre un pic de la production de pétrole conventionnel. Mais toutes les autres matières premières auront des prix qui vont descendre. Quant aux possibilités de le financer, aucun problème. C'est les Chinois qui ont besoin de matières premières. Les Chinois ont 3500 milliards de dollars à investir dans le développement des mines et des puits de pétrole et même de l'agriculture dans le monde. Donc ce n'est pas un sujet. Je suis un peu brutal, mais ce n'est pas un sujet.
Bien, donc l'officier est plutôt rassurant. Sur la question absolument centrale, donc démocratie et domestication, on va peut-être commencer par François, mais d'autres intervenants voudront aussi...
Non, simplement deux ou trois réactions très, très rapides. Sur la question de la démocratie et la mise en danger par la mondialisation de la démocratie. Moi, je voudrais insister sur le fait qu'on observe aujourd'hui, et c'est certainement l'une des raisons pour laquelle la mondialisation a relativement mauvaise presse dans beaucoup de nos pays développés, on observe une augmentation très importante des inégalités. De ce point de vue-là, un retournement par rapport à l'histoire qui est tout à fait évident. Maintenant, est-ce que ça signifie qu'on n'a pas de moyens de lutter contre ce retournement des inégalités? Je pense que c'est absolument pas vrai. Il y a encore, et heureusement, on a parlé tout à l'heure de souveraineté nationale, il y a encore la possibilité de redistribuer de façon importante à l'intérieur de nos économies. Je crois qu'éventuellement, de ce point de vue-là, il faut se poser la question du débat politique ou des forces politiques en présence qui vont contre ou qui vont pour cette redistribution. Mais je ne crois pas que, de ce point de vue-là, le pouvoir démocratique ait été entamé. Cela étant, il y a des contraintes imposées par la mondialisation de cohérence pour empêcher la mobilité, en particulier du capital. Mais je crois qu'on est très en deçà de ces contraintes. Sur la place de l'éducation, je pense qu'on est absolument tous d'accord pour dire que c'est un élément extraordinairement important. Mais je crois aussi qu'il faut faire attention au fait que dans l'éducation, il faut prendre en compte l'offre d'éducation, la production de plus d'éducation, de plus de capital humain, mais il faut aussi prendre en compte l'évolution de la demande et être sûr que des gens qui auront une meilleure formation trouveront des emplois qui correspondent à cette formation. On sait très très bien que dans beaucoup de cas, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de périodes, on a eu ces progrès d'éducation avec finalement une sorte de déclassement des diplômés faisant ou occupant des emplois qui étaient auparavant occupés par des gens qui n'avaient pas la même qualification. Donc il faut faire attention au fait qu'on a besoin d'une cohérence entre l'évolution de la structure des économies, et ça, ça dépend de la mondialisation, et de l'autre côté du type d'éducation qui est fourni. Et puis finalement, à propos de la question des crises, de ce qui peut se passer, comment on peut voir les choses aujourd'hui à la lumière des crises, je crois qu'il faut bien distinguer dans ce qui a été dit à ce panel entre court terme, long terme. Je crois que la vision était beaucoup plus une vision de long terme en faisant, c'était peut-être un tort, abstraction de la crise très sérieuse, très grave, dans laquelle on se trouve aujourd'hui et qui, Roger Ganry l'a signalé, sans aucun doute est liée à un aspect de la mondialisation qui est le secteur financier. Je crois que j'espère qu'on sortira de cette crise et les questions dont on a parlé sont effectivement des questions qui sont de plus longue haleine.
Pascal Lamy, sur la démocratie qui est l'un des cœurs évidemment de votre réflexion depuis déjà très longtemps.
Je vais répondre à cette question. Avant, juste un petit mot qui m'est revenu à l'esprit en écoutant Bernard Hockmann, qui, je crois, a très bien décrit ce qu'est la réalité du commerce dans le monde d'aujourd'hui. Et au fond, pour comprendre ce qui se passe, je crois qu'il faudrait changer le mot que nous utilisons. On continue à parler de commerce international comme si c'était des nations qui commerçaient avec des nations. Comme si on était toujours au temps où le roi de Crète passait un traité de commerce avec le pharaon égyptien. Et on continue à dire commerce international, commerce international, commerce international. En réalité, c'est une erreur. Il faudrait parler de commerce intramondial. Et si on parle de commerce intramondial au lieu de parler de commerce international, alors beaucoup de choses changent. Et notamment cette espèce de fixation médiévale sur combien j'importe, combien j'exporte, ce serait mieux si j'importais moins et si j'exportais plus. Ça ne fait aucun sens dans le monde d'aujourd'hui. Ce qui fait du sens dans le monde d'aujourd'hui, comme l'a dit d'ailleurs Giraud, c'est combien de valeur ajoutée est-ce que je produis via la participation de mon économie à l'échange international. Qu'est-ce qu'il faut que j'importe pour augmenter ma valeur ajoutée, dont une partie sera consommée sur place et une autre partie réexportée. Alors plus grave la question sur la démocratie. En théorie, il n'y a pas de problème. La théorie du système international dans laquelle nous vivons, qui date de 1648, le traité de Westphalie, dit que le monopole de la légitimité appartient au souverain. Et le souverain, c'est l'État-nation. Donc la théorie du système dans laquelle nous vivons, c'est vous avez sur cette terre à peu près 200 souverains. Il y en a des gros, il y en a des petits, il y en a des riches, il y en a des pauvres. Mais chacun de ces souverains dispose du monopole de la légitimité pour ce qui est de son action internationale. Et donc, le système international et les organisations qui le constituent sont légitimes puisqu'ils sont constitués d'États-nations souverains eux-mêmes légitimes. C'est la théorie du système dans lequel nous vivons, une espèce de transitivité de la légitimité. Il y a la légitimité primaire, qui est celle qui se constitue au niveau des pays, et puis il y a la légitimité secondaire, qui est le reflet de ces légitimités primaires décidant ensemble. Ça, c'est la théorie. on voit bien que, en pratique, ça ne colle pas tout à fait. D'abord parce qu'il y a divers modes de légitimation, la démocratie en étant un. On est encore dans un monde où il y a d'autres modes de légitimation politique que la démocratie. Je ne fais là que constater des faits. Et d'autre part, parce que une partie de la société politique ou de la société civile a commencé à s'intéresser aux questions internationales en débordant en quelque sorte les frontières conventionnelles de l'État-nation. Hein, Médecins sans frontières, ou Oxfam, ou WWF, ça ne colle pas très bien avec le cadre westphalien. Et donc, il faut aller dans une direction qui combine en quelque sorte l'augmentation via la participation dans le cadre politique national aux questions internationales et davantage d'ouverture, de transparence des organisations internationales. Et ça, ça mène à une conclusion qui est qu'au fond, comme la légitimité demeure d'abord une affaire de proximité, et ça, je pense que c'est personnellement que c'est un principe philosophique fondamental. Hein, la légitimité d'un pouvoir est inversement proportionnelle à sa distance, proportionnelle à sa proximité. Le pouvoir doit être le plus près possible des gens qui ont besoin d'un pouvoir pour vivre ensemble. Et donc, il faut, je crois, reconnaître cela. Et la démocratisation de ces questions internationales ne consiste pas, contrairement d'ailleurs à ce que j'ai pensé pendant longtemps, à globaliser des questions locales. Ça consiste à localiser des questions globales. Et je pense qu'il n'y aura de gestion plus démocratique de ces questions internationales, ce qui est toujours difficile parce qu'elles sont lointaines, elles sont à un autre degré de gouvernance, il n'y en aura que si les sociétés politiques, les citoyens, les militants, les associations, les partis, les syndicats s'occupent davantage qu'ils ne l'ont fait dans le passé de questions internationales. Alors c'est peut-être ce qu'on est en train de faire ici.
Bonjour Sébastien, étudiant en économie, j'ai plusieurs questions.
Une question, hein, parce qu'il y a plein de gens qui ont des questions, donc on parlait de démocratie.
Je vais la formuler très rapidement.
Merci.
J'aimerais que vous évoquiez un peu le problème du dumping social et environnemental, qui est un problème extrêmement important. Vous m'en parlez, je n'ai pas entendu ce problème être traité du tout. Et le problème du chômage technologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'automatisation, la mécanisation et aussi la cybernétique, on a besoin de moins en moins d'hommes, non seulement dans la production de biens, mais aussi dans la production de services. On voit toutes les caisses automatiques, etc., les répondeurs automatiques. Donc je ne vous fais pas de dessin, c'est qu'on a besoin de moins en moins d'hommes pour produire des biens et services. Ça, c'est une réalité. Et
question, hein. Puisqu'on doit parler au fait de commerce intramondial, est-ce que ça va remettre en cause les bases théoriques? Le professeur Guérini a parlé d'Echaroline, monsieur Vittorio a parlé de David Ricardo. Est-ce que ça va remettre en cause les théories de base qui expliquent là, justement les échanges internationaux, hein? Juste pour compléter ma question par rapport à professeur Giraud, le fait de négocier avec les Chinois et les Indiens, j'allais dire, hein, qui nous laissent quelques maillons d'industrie, est-ce que ça ne nous pousse pas à exiger d'eux de remettre en cause leurs propres avantages comparatifs?
Merci. Troisième question.
Monsieur Jean-Pierre Jouyet nous explique un peu l'intérêt des marchés financiers, parce que je crois que personne n'a compris que ce qui vient de se passer pendant ces 20 dernières années, c'est que tous les pays émergents ont produit et ont généré des excédents, alors que les pays développés produisaient peu et généraient des déficits, et que les marchés financiers ont été là justement pour recycler l'argent, parce que sinon c'était invivable. Et aujourd'hui on s'aperçoit de ça, enfin.
Alors là, Jean-Pierre Jouyet, dans sa conclusion, hein, reviendra largement sur ce point de la finance qui a été évoqué, qui était sous-jacent dans la plupart des questions qui ont été posées. Dumping social et environnemental, on n'en a pas parlé directement, on en a parlé implicitement, mais Pascal.
Non, là, il faut regarder les chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire que dumping social et environnemental ? Qu'est-ce qu'on entend par là? Je sais que c'est une thèse qui fait florès en France. Je me promène pas mal sur cette planète pendant toute l'année. C'est d'ailleurs un débat qui est très très particulier, très très particulier à la France. Cette idée que la France est un paradis social et environnemental qui est environné d'une gigantesque poubelle mondiale où les travailleurs sont exploités et où l'environnement est sacrifié est une légende franco-française très 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 particulière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, que le dumping social ? Revenons sur ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que les travailleurs chinois sont moins payés que les travailleurs français ? Évidemment. Mais la question, c'est à niveau de productivité équivalent, sont-ils moins payés ? Et pour l'instant, la réponse à cette question est non. Est-ce que ça veut dire que les droits des travailleurs chinois sont analogues aux droits des travailleurs français ou européens ? Non. Évidemment non. Simplement, il se trouve que amener la Chine à prendre des engagements internationaux sur l'égalité des salaires hommes-femmes, sur un minimum de droits syndicaux, sur l'interdiction du travail des enfants, pour prendre les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, ça ne peut se faire que par la négociation. On n'a pas quelqu'un qui va décider d'envoyer des casques bleus en Chine parce que les droits des syndicats en Chine n'y sont pas ce qu'ils sont en Suède. Donc ça ne peut venir que d'une négociation. Et donc les standards sociaux internationaux, et je crois qu'on est beaucoup à souhaiter qu'ils évoluent dans un sens de plus plutôt que de moins, ça ne peut venir que d'une négociation internationale. Et en tout cas, attention à, quand vous parlez de dumping social, qu'est-ce que ça veut dire ? Dumping environnemental, c'est quoi le dumping environnemental ? Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des produits qui sont des biens qui sont produits dans des conditions environnementalement épouvantables, qui seraient mauvaises pour la santé des animaux, des plantes, des humains, et qui pourraient, par exemple, rentrer sur le territoire européen ? Non. L'Europe, vous, Européens, disposez d'un certain nombre de législations, réglementations qui font que ne pénètrent pas des produits qui seraient mauvais pour la santé des Européens, que ce soit les hommes, les plantes ou les animaux. Est-ce que ça veut dire, par exemple en matière de changement climatique, que l'Europe est exemplaire et que le reste du monde est épouvantable et que donc, comme je l'ai parfois entendu dire en France, il faudrait égaliser ce dumping environnemental prétendu par une taxe à la frontière qui ferait qu'on taxerait le carbone importé parce que les produits européens émettent moins de carbone dans leur production que ce que l'on importe. Idée, somme toute, assez séduisante, sauf que, pas de bol, c'est faux. Si vous regardez le commerce international de l'Europe, ce qu'importe et ce qu'exporte l'Europe, compte tenu de la spécialisation européenne dans le commerce international, la chimie, la machinerie industrielle, les voitures, les aciers spéciaux, il se trouve que ce qui a permis à l'Europe de garder son 20% de part de marché mondial dont je parlais tout à l'heure, en partie grâce à la croissance des pays émergents, c'est particulièrement carboné. Et donc, en gros, du point de vue de l'empreinte carbone, l'Europe exporte davantage de carbone qu'elle n'en importe. Ce qui, si on est sérieux du point de vue du changement climatique, voudrait dire que ce n'est pas une taxe carbone qu'il faudrait mettre à la frontière, mais une subvention à l'importation. Si on est sérieux du point de vue de l'environnement, il faut importer des produits qui sont, du point de vue du changement climatique, moins néfastes que ceux qu'on produit. Donc, encore une fois, attention à ce qu'on appelle globalement le dumping social ou le dumping environnemental. Regardons les chiffres et à ce moment-là, on verra que les réalités ne sont pas toujours celles qu'on pense qu'elles sont.
Roger. À la fois sur cette question donc du dumping social et environnemental et sur le commerce, en particulier sur l'environnement, hein, puisque c'est un thème sur lequel vous avez beaucoup travaillé, et puis aussi sur est-ce que cette notion de commerce intra-mondial proposée par Pascal Lamy renverse votre modèle ?
Non, moi, je voudrais réagir parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Pascal Lamy sur les taxes carbone. Parce que je suis tout à fait d'accord que les produits exportés par l'Europe sont éventuellement plus carbonés que les produits qu'on importe. Mais dès lors que l'on met une taxe carbone interne en Europe, ou qu'on a un marché du carbone interne, on devrait taxer les produits, simplement une question de vérité des prix, on devrait taxer les produits importés proportionnellement à leur intensité en carbone. Alors évidemment, en moyenne, les produits qu'on importe ont moins de carbone, mais l'acier chinois qu'on importe a éventuellement plus de carbone que l'acier européen que l'on va exporter. Donc je ne dis pas que c'est facile à mettre en place. Je pense même que dans l'état actuel du fonctionnement du marché des permis en Europe, avec la gratuité totale des permis, on ne peut pas mettre en place un mécanisme. Je pense malgré tout qu'il serait souhaitable, et que ça fait partie de l'organisation du commerce mondial, qu'il y ait une taxe carbone internationale qui mime ce que l'on sait faire, ce que l'on peut faire, ce que l'on voudrait faire à l'échelle de l'Europe. Donc voilà.
Et sur la question du commerce intramondial, est-ce que ça change votre façon de penser les choses ?
Bah, moi, je ne sais pas. Oui, le commerce est intramondial. Il l'a toujours été. Mais il n'empêche qu'il est entre des entités qui sont dans des situations économiques différentes. Il est qu'au sein de ces entités, le commerce ou l'extension du commerce va faire des gagnants et des perdants, même si je suis prêt à accepter l'idée que c'est globalement gagnant, enfin avec un certain nombre de bémols, et que ça va poser des problèmes à l'intérieur de ces entités. Moi, je crois que ce qui va se passer en matière de mondialisation dans nos pays va dépendre assez fondamentalement de l'évolution relative des gagnants et des perdants, du nombre de gagnants et du nombre de perdants. Naturellement, on peut compenser les perdants jusqu'à un certain point, mais c'est ce qu'a dit suggéré François Bourguignon, je suis assez d'accord là-dessus. Mais si les perdants deviennent majoritaires, il se passera des choses, je ne sais pas quoi, je ne suis pas devin, mais je crois que c'est ce qui se passe dans nos démocraties.
C'est l'un des points qui ressort très fortement de cette discussion, le poids relatif des gagnants et des perdants et ce que gagnent les uns par rapport à ce que perdent les autres. Dernière round de questions avant la conclusion de Jean-Pierre Jouyet. Monsieur là, on n'a pas une seule question de femme. Alors il n'y en a pas beaucoup sur scène non plus, ça ne vous a pas échappé, mais c'est un petit peu dommage.
Merci.
Madame là, après.
Non. Bernard Léon, administrateur de l'Association des ingénieurs de l'environnement. Donc je voudrais revenir sur les propos de M. Lamy pour lui poser des questions complémentaires afin de préciser un ou deux points. Le problème, très rapidement, le dumping social, oublions-le. Parlons des règles que chacun doit respecter, de ces règles édictées par l'ONU, l'OIT, le BIT, etc. Ce sont des règles internationales qui les appliquent, qui ne les appliquent pas. On peut peut-être prendre le point de vue du dumping social sous cet angle-là. Problème de justice sociale. Deuxième point, l'environnement. Il me semble que même l'OMC, dans ses règles, a ouvert la question sur la possibilité pour les pays européens de prendre en compte l'environnement aux frontières pour une justice ou un équilibre des coûts de production. Donc, on pourrait, enfin, si je me trompe un peu, développer-le de façon à ce que je comprenne mieux. Et troisièmement, les histoires de taxes CO2, certains les demandent, mais en demandant également une réaffectation de ces taxes au développement, exactement comme pour la taxe Tobin, c'est demandé pour une réaffectation au développement des pays pauvres. Merci.
Merci.
Je suis professeure d'économie. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il est vraiment utopique d'envisager une réduction des souverainetés nationales au profit d'un réel pouvoir au niveau supranational? Car, en fait, finalement, l'économiste aujourd'hui est d'accord, quel que soit son bord, quel que soit son courant théorique, est d'accord sur le principe que la concurrence, le marché, il y a du bon, à condition qu'il y ait une régulation par une instance publique. Or, cette instance publique, quand elle est nationale, est inefficace. La taxe Tobin, enfin, on peut citer tous les exemples, d'ailleurs, que vous avez abordés. C'est inefficace quand c'est au niveau national. Est-ce qu'il est toujours utopique, non pas d'envisager un gouvernement mondial, mais réellement une instance, que ce soit l'OMC, le FMI ou autre instance, une instance publique qui est vraiment une autorité, qui est une souveraineté, et ça pose le problème de la démocratie et de la capacité à rendre les décisions qui sont prises au niveau global, à les rendre légitimes au niveau local. Merci.
Merci. Donc le règle sociale de l'OIT, OMC et environnement, vous allez confirmer ce que disait monsieur. Et puis retour sur la souveraineté nationale, point que vous avez déjà abordé, Pascal.
Bon, sur les règles en matière sociale, vous avez raison, il y a une organisation internationale qui est en charge de la régulation des standards sociaux de base sur cette planète, qui s'appelle l'Organisation internationale du travail, qui est d'ailleurs une des plus anciennes parce qu'elle a été créée après la Première Guerre mondiale et qui a une caractéristique très très particulière qu'aucune autre n'a, qui est qu'elle est tripartite. À l'Organisation internationale du travail, ce sont les gouvernements, les syndicats et les patronats qui doivent se mettre d'accord. Mais dans notre système, dans cette espèce d'archipel de gouvernance internationale que nous avons aujourd'hui, c'est à l'Organisation internationale du travail qu'il appartient de vérifier que les normes et les standards qu'ont souscrit les membres de l'Organisation internationale du travail sont appliqués. Ce n'est pas l'Organisation mondiale du commerce ou de la santé ou à l'Organisation agricole ou des télécoms. Chacun, dans ce système, a sa spécialité. Sur l'environnement, vous avez parfaitement raison. Les règles de l'OMC, parce que l'OMC a été créée en 1994, à un moment où ces questions environnementales étaient déjà politiquement beaucoup plus présentes que la plupart des autres organisations internationales qui ont été créées après la Seconde Guerre mondiale, les règles de l'OMC prévoient, de même d'ailleurs que les accords de l'OMC, de même que la jurisprudence du mécanisme judiciaire que nous avons à l'OMC, prévoit que vous pouvez, au nom de préoccupations environnementales, ériger tel ou tel obstacle aux échanges, dès lors que vous le faites pour protéger votre environnement et pas pour protéger tel ou tel intérêt particulier sous le couvert de protéger l'environnement. Sur la souveraineté nationale, vous avez parfaitement raison, il faut avoir cette utopie. Quand je décrivais le système dans lequel on est, je suis de ceux qui trouvent que ce système basé sur la souveraineté d'État-nation, 200 d'entre eux avec des questions beaucoup plus globales que par le passé, est un système qui ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien. Et il faut davantage de gouvernance supranationale, osons le mot, dans des conditions telles que la légitimité de cette gouvernance qui sort de la gangue de la légitimation nationale ne soit pas mise en cause. Et là, au fond, la seule expérience concrète de cette utopie réelle, c'est ce que nous, à l'époque, et vous maintenant, faites en Europe. Vous avez un laboratoire de cette utopie qui s'appelle l'Union européenne. Et vous voyez, si vous regardez ce qui se passe dans ce laboratoire, vous voyez des succès phénoménaux qui n'ont été atteints nulle part ailleurs sur cette planète. Il y a des processus d'intégration régionale ailleurs sur cette planète. Il y en a en Asie, il y en a en Afrique, il y en a en Amérique centrale, il y en a en Amérique latine, il y en a même maintenant autour de la Russie. Donc il y a eu des progrès phénoménaux, mais il suffit de regarder le bazar actuel pour voir que c'est pas si commode que ça. Il faut vraiment déployer beaucoup, beaucoup d'énergie pour faire échapper ces questions de gouvernance à cette espèce d'attraction westphalienne, encore une fois, de l'État-nation souverain. Et ce n'est pas si simple de créer un espace légitime démocratiques, dans le cas des Européens, qui sortent de la gangue des espaces nationaux. On a, au fond, en Europe, ce qu'on a fait, on a pris le livre de recettes de Montesquieu, on a dit, pour avoir un gouvernement supranational, il faut un exécutif, un législatif, un judiciaire. Alors on a fait un exécutif, on a fait un législatif avec deux chambres, le Sénat des États membres, le Parlement européen, on a une Cour de justice, et on a dit, ça y est, maintenant, on a une gouvernance européenne qui va marcher. Ben, ça ne suffit pas. Ça suffit pas.
Merci. Jean-Pierre Jouyet, vous êtes président de l'Autorité des marchés financiers, le gendarme de la finance, comme écrivent les journalistes. Vous avez été ministre des Affaires européennes, vous êtes le grand témoin de ces journées de l'économie, mais vous avez été aussi, d'une certaine manière, enfin, les activités que vous suivez ont été aussi mises en cause, puisque beaucoup de questions pouvaient se résumer, excusez-moi, messieurs, en, puisque c'était que des messieurs qui ont posé ces questions-là, qui étaient... pas tellement domestiquer la mondialisation, mais oui, il faut domestiquer la finance. Et puis, dans ce que disait Pascal Lamy, il disait la crise, c'est un défaut de régulation globale dans la finance qui est l'industrie la plus globalisée. Et il disait que beaucoup de problèmes relèvent du niveau national. Or, vous vous occupez de la finance au niveau national. Donc, on vous attend avec beaucoup d'impatience, à la fois, évidemment, sur la conclusion de cette très riche table ronde, mais aussi sur les interpellations de la finance qui ont été nombreuses.
Bien, merci beaucoup. Je vais essayer d'être bref parce que je ne voudrais pas répéter ce qui a été clairement dit déjà ce matin. Moi, ce qui m'a frappé dans les interventions, c'est véritablement trois points. Le premier, c'est qu'il est très difficile, pour reprendre l'expression de François Bourillon, de faire un bilan de ce qu'est la mondialisation ou la globalisation. Et d'avoir un bilan complet n'est pas du tout évident. Vous l'avez dit, il y a des gagnants, il y a des perdants. On voit bien ce que sont les emplois sédentaires, on voit bien ce que sont les emplois nomades. Les perdants d'aujourd'hui peuvent devenir les gagnants de demain. Il y a une certaine impatience à le devenir. On comprend les inquiétudes de l'équipage par rapport à ce qui a été dit, alors que les officiers essaient plutôt de rassurer ce qui se passe, c'est leur rôle aussi. Enfin, il y a un certain nombre de questions très importantes sur le bilan qui ont été posées. Deuxième point, ce qui m'a frappé, c'est l'équilibre entre ce qui, comme l'a souligné Pascal, ce qui ressort du global et du national. Et ce que je veux dire, on voit bien, par rapport à l'état d'esprit qui pouvait être le mien avant cette table ronde, qu'il y a quand même une source d'espérance forte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout renvoyer au global. C'est-à-dire qu'on peut agir nationalement, il faut s'approprier ces sujets globaux comme on l'a fait ce matin sur un plan politique, sur un plan associatif, sur un plan intellectuel, sur un plan aussi, puisque c'est mon métier, régulateur et administratif, mais on voit bien qu'il y a des réponses publiques, des politiques publiques qui sont des politiques de stratégie, vous l'avez indiqué, il y a des stratégies industrielles, il y en a dans le domaine de l'éducation, il y en a pour savoir sur quel segment on doit développer la valeur ajoutée dans ce cadre mondial. Tout ça dépend de choix encore nationaux et de choix politiques. Et ça, je crois que c'est important par rapport aux interrogations qui ont été passées sur la démocratie. C'est-à-dire qu'il faut réinstaurer aussi ce qui existe, ce débat sur la mondialisation, dans le cadre démocratique et dans le cadre national. Je crois que c'est important. On ne l'a pas fait jusqu'à présent. On était très peu, Pascal est un des pionniers, à s'intéresser à ce qui était l'international, le multilatéral, ne suscitait pas ce type de débat tel qu'on le voit aujourd'hui et tel que la crise les a encore amplifiés depuis ces dernières semaines. L'autre point qui est très important, ça a été souligné par le public, par les intervenants de ce matin, par Pascal, pour reprendre ce qu'a dit M. Guenry, c'est de savoir si ce qui est en train de se passer, on ne passe pas de l'océan Pacifique au Cap Horn, étant entendu quand même que la mondialisation a quand même beaucoup bénéficié à l'océan Pacifique ces derniers temps. C'est comment est-ce que les forces politiques, comment est-ce que les systèmes démocratiques, a été dit, arrivent effectivement à avoir une maîtrise de ce processus. Et ça, c'est une question centrale, elle est double. Elle se pose, elle est même triple, elle se pose au niveau national, au niveau régional, parce qu'elle l'a dit, c'est rien n'est évident. Enfin, moi, ma conviction est qu'on a pu quand même beaucoup le choix et que dès lors qu'on a une intégration dans le cadre de la zone euro, on a intérêt à faire du Montesquieu performant et rapidement dans le cadre de la zone euro, à défaut de pouvoir le faire dans le cadre de l'Union européenne. Et troisième élément, c'est toute la conduite du processus de globalisation et quels sont les organes de régulation, et je vais en venir à la finance, qui permettent de guider, de conduire cette mondialisation. On voit bien qu'il y a des organismes type G20, parce qu'elles participent à ces réunions qui sont nées, mais enfin c'est encore, en progrès, il y a encore beaucoup de progrès en termes dans la dialectique coopération-compétition. Et vous avez des domaines tels le commerce, on en a parlé, l'environnement, le travail, où vous avez déjà des structures qui existent et qui sont fortes. On peut être d'accord ou pas avec l'Organisation mondiale du commerce, on peut être d'accord ou pas avec le Fonds monétaire international, avec la Banque mondiale, enfin, ce sont des structures qui existent et qui véritablement produisent en fonction de ce que leur disent les États qui sont encore souverains, qui sont leurs actionnaires, si j'ose m'exprimer ainsi pour reprendre un terme financier. Mais enfin, ça existe. Et puis vous avez des domaines, et là je viens à ce qui me paraît être le sujet le plus préoccupant, où vous avez une globalisation financière extrêmement forte, avec une industrie qui est globale, comme cela a été souligné, et une régulation qui au niveau international, qui au niveau européen, reste assez faible. C'est-à-dire, pour reprendre ce qui a été dit, c'est que vous avez encore une opposition entre les tenants d'un laisser-faire sur le plan des marchés et ceux dont nous faisons partie au niveau national et au niveau français qui souhaitent une régulation beaucoup plus forte de ces marchés. Je crois que c'est un enjeu central parce qu'à travers vos réactions, à travers ce qui a été dit ce matin, il est évident que ce qui caractérise cette étape de globalisation, de mondialisation par rapport aux autres étapes de la mondialisation, c'est la financiarisation excessive du processus de mondialisation actuel. Et le fait que toutes les activités, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient de services, qu'elles soient dans le domaine scientifique et autres, sont sous la maîtrise effectivement de ces marchés. Et pour le régulateur, la question est de savoir comment, savoir ce qui se passe. Deux, comment corriger les excès, les dysfonctionnements évidents des marchés financiers que vous avez soulignés et qui d'ailleurs, pour ceux qui voudraient en savoir plus, il se trouve que je passe cet après-midi dans la partie festival off de cette journée et donc je ne vais pas prolonger ici avec Pascal Mucoulot-Marcel et donc je vais pouvoir développer ce que je pense des fonctionnements plus précis des marchés financiers. Mais pour être clair avec vous, ça a été dit par monsieur dans l'assistance tout à l'heure. Il ne faut pas croire que les marchés, c'est une existence abstraite, c'est opaque, ça a des dysfonctionnements, ça a des excès. Mais on souffre d'autant plus de cet excès et de ces dysfonctionnements de marché qu'on s'est mis dans leurs mains. C'est-à-dire que le développement des marchés internationaux de capitaux a répondu à un déséquilibre objectif entre déficit et excédent financier et qu'ils ont essayé de rééquilibrer. Ils ne le font pas bien, ils le font en fonction de leurs intérêts, ils le font de manière qui sont spéculatives, qui sont opaques, mais enfin ça vient de là. Deuxièmement, aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous nous trouvons dans une situation européenne qui est extrêmement difficile? Pourquoi est-ce qu'effectivement, il y a non seulement les marchés, mais un certain nombre de gens qui disent, bon ben voilà, il faut passer à un autre stade de souveraineté. J'ai dit ce que j'en pensais moi dans la zone euro, mes convictions sont connues en ce domaine, je pense qu'il faut aller plus loin parce que sinon on va être dans une situation extrêmement, extrêmement difficile dans le cadre de la zone euro. Mais on s'est mis dans leurs mains parce que nous sommes dépendants en termes de financement de ces marchés. Vous regardez, par exemple, les pays européens, quelques exceptions près, dont l'Allemagne, sont extrêmement dépendants dans le financement de leur dette d'un certain nombre d'investisseurs étrangers. Le pourcentage de la dette détenue par les investisseurs étrangers en Europe est un des pourcentages les plus élevés de la planète. Deuxièmement, quand vous regardez les structures de financement des entreprises, vous apercevez aussi, notamment dans les pays européens, que nous sommes parmi les plus ouverts et les plus dépendants de ces investisseurs étrangers. Vous regardez les structures capitalistiques françaises, c'est cela. Et ça résulte également de choix nationaux. Ce n'est pas un hasard. S'il y a un côté des structures d'entreprises et des structures d'entrepreneuriat qui sont différents et performants en Allemagne par rapport à ce qui existe en France, il y a eu des choix politiques qui ont conduit à une dépendance des marchés plus grande dans notre pays, sur le continent européen par rapport à d'autres. Bon, eh ben, il faut corriger ces faits-là. Ça ne dépend pas des marchés, ça dépend des politiques aussi, la publique, qui doivent être mises en œuvre, notamment dans le domaine industriel, dans le domaine technologique et au regard du développement des petites et moyennes entreprises dans ce pays. Voilà ce que c'est aussi que de reconquérir ses marges, reconquérir son indépendance. Enfin, dernier point, le sujet de l'organisation des marchés, comme le sujet de ce qui a été dit de l'organisation environnementale, de l'organisation industrielle, elle est primordiale. C'est une question de politique internationale aujourd'hui. Il faut vraiment céder en rien sur la régulation, la transparence de ces marchés, sur une meilleure organisation. C'est un moyen d'indépendance. Je finis sur une note un peu technique. On peut être pour ou contre l'économie de marché. Mais enfin, il faudrait encore qu'il y ait un marché. Il faudrait encore qu'on soit maître d'un marché. Ce n'est pas le cas. Vous avez la moitié des transactions sont des transactions qui émanent de ce qu'on appelle la finance de l'ombre. On peut être pour ou contre les banquiers. Ce ne sont plus les banquiers qui font l'essentiel des transactions financières internationales. Ce sont des fonds qu'on n'arrive pas à réguler. Il faut le savoir. Donc il faut quand même s'intéresser un peu à ces sujets. Deuxièmement, vous pouvez essayer de mieux organiser l'euro, de défendre la zone euro. Si le centre d'influence essentiel n'est pas dans cette zone, si les ordres d'achat que vous passez, les ordres de vente que vous passez sur des marchés d'échange, sur des marchés de matières premières, sur des marchés d'actions, sur des marché d'obligations, vous n'organisez pas le marché dans votre zone, eh bien vous avez une zone qui reste dépendante d'autres centres de décision. Et dans le cadre de la zone euro, dans le cadre de cette réorganisation, puisque je conclurai sur ce point, eh bien il faut effectivement que nous pensions l'organisation de ces marchés financiers, que nous pensions l'organisation de la régulation financière. Et si nous sommes que quelques-uns à le vouloir, eh bien ce sera déjà ça, mais c'est pour nous maintenant une question qui est vitale. Et bien évidemment, on doit le plus possible internationaliser, mais si on ne le fait pas, on doit au moins le régionaliser et garder notre préserver une certaine indépendance politique par rapport au marché, notamment dans le cadre de la zone euro. Voilà, merci.